Minuit 23.
Chapitre 72. La laisse à singe.
Au cours des tumultueuses opérations liées au dépecement du cachalot, les hommes d'équipage courent en tous sens. On a besoin de matelots ici, puis là. Impossible de rester en un endroit car il faut tout faire partout en même temps. Il en va presque pareillement pour qui a entrepris de décrire la scène. Il nous faut à présent revenir quelque peu en arrière. Il a été indiqué précédemment que lorsqu'on pose le pied sur le dos du cachalot, le crochet à lard est inséré dans le trou qui ont d'abord creusé les pelles des officiers. Mais comment ce croc, qui est une pièce pesante et peu commode à manier, avait-il été passé dans le trou ? Il le fut par mon cher ami Quickegg, à qui sa qualité de harponneur valut de se voir confier la mission de descendre sur l'échine du monstre à cette fin. Bien souvent, toutefois, les circonstances exigent que les harponneurs restent sur l'animal jusqu'à ce que l'opération de dépecement soit complètement terminée. La baleine, notez-le bien, est presque entièrement immergée, à l'exception des parties sur lesquelles on œuvre. De sorte que le malheureux harponneur, descendu à quelques 10 pieds au-dessus du niveau du pont, se trouve barboté, moitié sur la baleine, moitié dans l'eau, tandis que sous lui, l'énorme masse roule sur elle comme une meule de moulin. Quickegg, à cette occasion, portait le costume écossais, kilt et chaussettes montantes, dans lequel il était, à mes yeux du moins, tout à son avantage, et personne n'était mieux placé que moi pour l'observer, comme on va le voir. Étant le canotier de l'avant de mon sauvage, celui qui tenait le deuxième aviron à partir de la proue, j'avais la réjouissante mission de l'assister pendant qu'il faisait ses incroyables acrobaties sur le dos du cadavre du cachalot. Vous avez assurément déjà vu ces jeunes Italiens avec leurs orgues de barbarie et un petit singe qui fait des cabrioles au bout d'une longue laisse. De semblable manière, je tenais Quickegg du flanc abrupt du navire, au bout de ce que les pêcheurs appellent familièrement une laisse à singe, attachée à une forte bande de toile qui lui enserrait la taille. La situation était à la fois périlleuse et comique pour tous deux. Car avant d'aller plus loin, il faut dire que cette laisse était assujettie aux deux extrémités, à la large ceinture de toile de Quickegg et au cuir étroit de la mienne. Ainsi, nous étions, lui et moi, provisoirement unis pour le meilleur ou pour le pire. Et Quickegg dut-il couler pour ne plus jamais remonter, l'usage et l'honneur voulaient que, loin de couper la corde, je me laissasse entraîner à la suite. Un long lien siamois nous attachait donc l'un à l'autre. Quickegg était mon inséparable jumeau, et il m'était rigoureusement impossible de faire fi des dangereuses responsabilités que comportait cette ligature de chanvre. Et tandis que je suivais ses mouvements avec la plus grande attention, c'est sous un jour métaphysique et avec un grand relief que mon sort m'apparut et il me sembla percevoir clairement que ma personnalité individuelle s'était dissoute dans celle d'une société anonyme à deux associés, que mon libre arbitre avait reçu un coup mortel et que l'erreur ou la malchance d'un autre allait peut-être conduire l'innocent que j'étais à un désastre ou à une mort imméritée. Je voyais donc là une sorte d'un... Je voyais donc là une sorte d'interrègne de la Providence, car son équité absolue n'eût jamais pu consacrer un aussi flagrant mépris de la justice. Poussant la réflexion un peu plus loin, tout en tirant de temps à autre sur la corde d'un coup sec pour éviter à Quiqueg d'être écrasé entre le navire et la baleine, je compris que cette mienne situation était précisément celle de tout être qui respire, à cette différence que, dans la plupart des cas, ce cordon siamois le relie d'une manière ou d'une autre à une pluralité d'autres mortels. Si votre banquier fait faillite, vous coulez. Si votre pharmacien met par erreur du poison dans vos pilules, vous mourrez. Certes, direz-vous avec d'infinies précautions, on peut espérer échapper à ces aléas et aux innombrables hasards malheureux de la vie. Mais quel que fût le soin avec lequel je manœuvrais la corde, Quiqueg lui donnait parfois de telles secousses que j'étais bien près de glisser par-dessus bord. Et il m'était impossible d'oublier un instant que, quoi que je fisse, je n'étais maître que de l'une de ses extrémités. Je viens d'indiquer que souvent, je tirais le pauvre Quiqueg de l'intervalle entre la baleine et le flanc du navire, où le faisait tomber, à certains moments, les roulis et oscillations incessantes de l'une et de l'autre. Mais il n'était pas seulement exposé à ce danger d'écrasement. Les requins que le massacre de la nuit n'avait nullement découragé et calléchés à nouveau, et plus vivement que jamais le sang qui commençait maintenant à couler à flot de la carcasse, les requins, ces créatures enragées, se pressaient autour du cadavre comme des abeilles dans une ruche. Et c'est au beau milieu de ces requins que Quiqueg se trouvait installé, les repoussant dans les remous d'un coup de pied. Chose qui paraîtra parfaitement incroyable, mais en réalité, il est rare que le requin carnivore électique s'en prenne à l'homme lorsque se présente une proie telle qu'une baleine morte. Toutefois, on comprendra sans peine que ses convives, ayant déjà mis une dent vorace au plat, la plus élémentaire sagesse commandait de les surveiller de près. En conséquence, outre la corde de sûreté au moyen de laquelle j'écartais le pauvre diable du trop grand voisinage de la mâchoire d'un squale à la mine particulièrement féroce, il existait une autre protection. Perché sur l'échafaudage suspendu au flanc du navire, Tashtego et Dagou agitaient continuement au-dessus de sa tête deux louchers au fer tranchant avec lesquels il tuait autant de requins qu'il en pouvait atteindre. Il y avait dans ce geste, à n'en pas douter, beaucoup de désintéressement et de bienveillance. Il ne voulait que le bonheur de Quiqueg, je l'admets volontiers. Mais dans le zèle fébrile qu'il mettait à lui venir en aide, et du fait que l'eau troublée du sang dissimulait parfois à demi et les squales et l'homme, leur pelle imprudente risquait bien plutôt d'amputer une jambe qu'une queue. Mais j'imagine que le pauvre Quiqueg, lui, qui se démenait en haletant avec son crochet de fer, se contentait d'adresser des prières à son Yojo et remettait sa vie entre les mains de ses dieux. « Allons, mon bon ami et mon cher jumeau, » pensais-je en tirant puis en relâchant la corde au gré de la houle. « Qu'importe, après tout, n'es-tu pas la précieuse image de chacun d'entre nous dans ce monde de pêcheurs de baleines ? L'océan, insondable où tu t'affaires, hors d'haleine est la vie. » Ces requins tes ennemis, ces louchers tes amis, et toi entre squales et pelles, te voilà dans de beaux draps, mon pauvre garçon. Mais courage, un breuvage délectable t'attend, Quiqueg. Car voici qu'à présent, tandis que le sauvage épuisé, les lèvres bleuies et les yeux injectés de sang, grimpe aux cadènes des portes au banc et parvient sur le pont où il se tient, trempé des pieds à la tête et tremblant malgré lui, le maître d'hôtel s'avance et avec un regard où se lisent la consolation et la bonté lui tend. Quoi ? Un cognac bien chaud ? Non. Il lui tend, ô Dieu, il lui tend une tasse d'eau tiède au gingembre. Du gingembre ? Est-ce bien du gingembre que je sens ? Demanda Stubb d'une voix soupçonneuse en s'approchant. Oui, ce doit être du gingembre, ajouta-t-il en baissant les yeux sur la tasse encore pleine. Il demeura un instant comme saisi d'incrédulité. Il demeura un instant comme saisi d'incrédulité, puis s'avançant d'un pas calme vers le maître d'hôtel étonné. Il s'adressa à lui en détachant ces mots. « Du gingembre. Et vous voulez avoir la bonté de me dire, monsieur Boulette de Farine, en quoi consiste la vertu du gingembre ? Du gingembre. Est-ce là le combustible que vous utilisez, Boulette, pour allumer le feu de ce cannibale grelottant ? Du gingembre. Qu'est-ce donc ? de la houille, du bois de chauffage, des allumettes soufrées, de la mèche, de la poudre de canon. Le gingembre, que diable est-ce donc ? Pour vous... Le gingembre, que diable est-ce donc, vous dis-je, pour que vous en offriez une tasse à ce pauvre quick-egg que voici ? Il y a là quelques manigances sournoises de la société de tempérance, ajouta-t-il soudain, en se dirigeant vers Starbuck, qui revenait de l'avant. Voulez-vous jeter un coup d'œil à ce pot, monsieur ? Sentez-le, je vous prie. Et guettant l'expression du second, il poursuivit. Le maître d'hôtel, monsieur Starbuck, a eu le front d'offrir cette potion au calomel à Quick-Egg, remonta à l'instant du cachalot. Le maître d'hôtel est-il donc un apothicaire ? Le maître d'hôtel est-il donc un apothicaire, monsieur ? Et est-ce avec ce genre de geste cordial qu'il contrequinquait un homme à demi noyé ? J'ai du mal à le croire, dit Starbuck. C'est un bien piètre breuvage. Ha, ha. Approchez, maître d'hôtel, cria Stubb. Nous allons vous apprendre à droguer un harponneur. Faites disparaître vos remèdes d'apothicaire de ce bord. Voulez-vous donc nous empoisonner ? Vous avez contracté des assurances pour nos têtes et Vous avez contracté des assurances sur nos têtes et vous voulez aussi l'équipage tout entier pour empocher l'argent, c'est bien cela, n'est-ce pas ? Ce n'est pas moi, s'écria Boulette de Farine. C'est Tante Charité qui a apporté le gingembre à bord et m'a demandé de ne jamais donner d'alcool au harponneur, mais seulement ce vin de gingembre, comme elle l'appelait. Un vin de gingembre. Tenez, prenez cela, misérable vigneron. Retournez en hâte à vos magasins et trouvez-nous quelque chose de mieux. J'espère avoir bien agi, monsieur Starbuck. Tels sont les ordres du capitaine. Un grog pour le harponneur de service sur la baleine. Bon, assez, répliqua Starbuck. Seulement ne le frappez plus, mais... Oh, les coups ne font jamais mal quand je frappe, sauf quand c'est une baleine que je vise ou une cible de ce genre. Et ce gars est une belette. Mais qu'alliez-vous dire, monsieur ? Seulement ceci, descendez avec lui et choisissez ce que vous voulez. Lorsque Stubb réapparut, il avait un flacon de couleur foncée dans une main et une sorte de boîte à thé dans l'autre. Le flacon qui contenait l'alcool robuste fut donné à Quick-Egg. La boîte cadeau de la tante Charité fut généreusement offerte au flot.